Le pamphlet de Gontran, c'est quoi? C'est un événement qui m'a marqué, sauté aux yeux, fait mal en dedans, fait rire aux larmes, a suscité une émotion et dont je voudrais partager mon envie d'y mettre des mots. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Le jour où je mourirai, puisque c'est écrit qu'après l'enfance c'est quasiment fini, devant l'autre Charlot, j'espère arriver la boule à zéro et la morvonnée. Du mercurochrome sur mes genoux pointus, qui connaissent l'arôme du sirop de la rue. Lui qui a eu tant de mômes et qui les a perdus. Extrait, le sirop de la rue, Renaud Séchant. Je n'avais rien d'autre à faire. Mois d'août, vacances, pandémie. Je me suis dit, tiens, si je me faisais un petit pamphlet sur le temps. Le temps qui passe, qui file, qui se perd. Le temps d'écrire et de me taire. Alors bon, vaste sujet, vous en conviendrez. Premièrement, comment définir le temps? Dans le dictionnaire, on nous dit petit a, continuité indéfinie. Petit b, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes. Et enfin petit c, mouvement et leur représentation dans la conscience. Alors exemple, exemples qui sont de moi, pas du dictionnaire. Petit a, tous les jours, représentant ici la continuité indéfinie. Petit b, je mange et je fais la vaisselle dans ma cuisine. Donc, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes. Et enfin, petit c, mais je n'aime ni faire la vaisselle, ni faire la cuisine. Ici, mouvement et leur représentation dans la conscience. Mais le temps est un point repérable dans une succession d'avant et d'après. Je mange et ensuite je fais la vaisselle. Et dans le même temps, je pense que je n'aime pas ça. Mais alors, où est passé mon temps ? Mon point repérable dans le temps, qui somme toute, peut se trouver avant ou après, ou entre avant et après, entre je mange et je fais la vaisselle, par exemple. Il nous faudra être présent pour trouver notre temps, c'est-à-dire au point précis où vous vous situez avec lui. Vous mangez, vous êtes là présent, debout dans votre temps de repas. Enfin, plutôt assis, là, pour le coup, en général. Vous faites la vaisselle, vous êtes là présent debout dans votre temps de plonge. Ainsi, le présent définit le point précis où se trouve le temps au moment précis où vous vous trouvez avec lui. Par exemple, là tout de suite, j'écris ce pamphlet. Le temps se situe à la pointe de mon stylo Bic, juste là. Au moment précis où les mots noircissent ma feuille de papier glacé avec des impressions temporaires. Mais ne paniquez pas, ne paniquez pas. En définitive, le temps est difficile à saisir. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce que le temps? Alors, redictionnaire, un milieu indéfini et homogène dans lequel se trouvent les êtres et les choses et qui est caractérisé par sa double nature qui est à la fois continuité et succession. Mouais. Ce qui m'amène à me demander si une succession de temps forme une continuité dans le temps, ou alors est-ce que la continuité qui forme des successions de temps est ininterrompue? Bon, c'est le bordel. Posons-nous la question autrement, qui a défini le temps? Alors bon, je ne suis pas un rapporteur, mais j'ai les noms. J'ai les noms, c'est les Grecs. Non pas qu'ils aient inventé le temps, entendons-nous bien, ils l'ont défini à peu près tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ils l'ont défini ainsi, chronos, qui signifie temps, durée de temps, auquel on adjoint l'aion, la durée de la vie, la destinée, le sort, et auquel on rajoute kéros, le moment opportun, l'occasion. Et voilà notre temps défini pour la toute première fois. Et comme le disait si bien Jeanne Masse, toute première fois, toute première fois, bon, ça n'a rien à voir, c'était pour passer le temps. Mais à partir de là, le temps, le nôtre, se situe à peu près entre la naissance et la mort, à partir des Grecs. En gros, et pour lire entre les lignes, voire sauter des paragraphes, la durée d'une vie, donc l'écoulement de son temps, dépend de sa destinée ainsi que des coups du sort. Genre, sur votre route, vous marchez peinard et vous faites la rencontre fortuite d'une météorite. Par exemple, là, elle vous tombe sur la gueule. Votre temps s'arrête net. Mais, il faut que ce soit le moment opportun. Il faut qu'à la virgule de seconde près, vous passiez sur le chemin au moment précis où la météorite s'écrase. C'est où cela devient l'occasion donnée ou reçue, qu'il vous faudra savoir éviter pour étendre votre temps un peu plus loin. Mais alors, comment, et on y vient, vous allez voir, comment mesurer le temps pour savoir quand, où, à quelle heure éviter la météorite, par exemple? Bon, bah déjà, commençons par le début, jour, nuit. Un temps donné au jour, l'autre à la nuit, pas de jaloux. Et nous devons cela à la rotation de la Terre autour de l'astre solaire. Car l'homme de tout temps a toujours voulu mesurer son temps, ne serait-ce que pour se faire cuire un œuf à la coque parfaitement. Hein, c'est ici un exemple qui a fait son temps. Mais le petit diablotin de salopard cornu d'humain avait une idée de derrière les fagots de sa caboche. Il voulait non seulement mesurer le temps, mais contrôler la mesure du temps. Pour diverses raisons. Le contrôle de ses cultures, savoir quand il arrête de compter, lorsqu'il joue à cache-cache par exemple. Rigolez pas, hein. Il paraît qu'avant, hein, il y en a qui sont morts en comptant. Des archéologues auraient retrouvé des mecs debout, appuyés sur leur avant-bras, le long d'un arbre pétrifié. Non, si, si. Le premier instrument connu pour la mesure du temps s'appelle la clepsydre. Alors, un récipient, de l'eau, un petit trou au fond du récipient, et le temps qui vous est imparti, c'est le temps où l'eau s'écoule par le petit trou. Facile, mais fallait quand même y penser. Alors imaginez un peu les discours à l'époque. Hein. Le député Gromaire, là, je dis n'importe quoi, a encore été interrompu par la clepsydre de l'opposition. Certains prétendent, dans les rangs de Gromerle, que le trou aurait été agrandi à des fins mercantiles. Bon, avouez, pas très fiable tout ça. Hein. Nous allons donc de suite, et pour gagner du temps, passer à la division des jours en 24 heures. Alors là, attention, 1, 2, 3, 24. À partir de là, d'ici et non pas d'ailleurs, l'être humain, comme il se fait encore appeler de nos jours, s'est retrouvé possédé par son temps. Tout a été heuré. La bouffe, le lever, le coucher, le travail, même uriner est devenu un temps à caser. Ce fut l'époque où l'on inventa le retard. Et les patrons, par le même coup. Mais ça, c'est une autre histoire. T'es en retard, t'es viré. Le délit de sale gueule est passé en arrière-plan. Enfin, il existe toujours, attention. Hein. Mais c'est tout de même grâce à la mesure du temps qu'est né le licenciement. Hein. Pas dans le même temps, mais plus tard. De fait, les 24 heures, on les doit aux Sumériens. Environ 4000, 5000 ans avant notre ère, ces habitants du Proche-Orient divisaient déjà leur journée en 6 périodes. 3 par journée, 3 par nuit. Puis ces périodes furent précisées et raccourcies par des divisions successives en 2 périodes. 12 heures et 24 heures. L'heure telle qu'on la connaît était née. Bien plus tard, environ 300 ans avant Jésus-Christ, ils inventèrent également les minutes et les secondes, eh oui, par besoin de précision dans leurs observations du ciel. Bref, prenons un raccourci histoire de gagner un peu de temps. Dans notre récit, sur la mesure du temps. 1657 après Jésus-Christ cette fois, le Hollandais Christian Ingwen, mathématicien, crée la première horloge à pendule pesant, en se basant sur les recherches de Galilée. Le tour du cadran est inventé et en même temps, la grasse matinée emprisonnée. Mais alors, nom de Dieu de foutu pendule, qui tire ses 12 coups en pleurant, pourquoi le temps s'écoule? Eh bien, selon Einstein, alors lui, attention, hein, il est venu tout relativiser la question. Hein. Il est arrivé de nulle part, même pas peigné, et il a dit « laissez-moi passer, je suis scientifique », et là, la théorie de la relativité en pleine gueule de la pendule. Le réveil avait sonné. Écoutez un peu ça. « Le temps ne passe pas plus doucement parce qu'on se trouve dans l'espace. Il ralentit parce qu'on s'y déplace vite. » Sa théorie de la relativité restreinte montre que la lumière dans un espace vide se déplace toujours à la même vitesse, soit 299 792 458 mètres seconde. Le temps ne s'écoule donc pas de la même manière selon la vitesse à laquelle on se déplace. Vous êtes bien assis ? Alors continuons. Ainsi, toutes les personnes qui passent à côté de toi vieillissent plus lentement. Juste incroyable comme découverte. Toutefois, nos déplacements ont des vitesses trop faiblardes pour que cela soit perceptible. Mais sa théorie peut être confirmée expérimentalement en plaçant une horloge atomique extrêmement précise dans un avion pour un raid de plusieurs heures. On constate que par rapport à la même horloge restée à terre, le décalage est de quelques nanosecondes. Ainsi, si tu faisais un voyage dans l'espace à bord d'une fusée super rapide, genre l'USS Enterprise de Star Trek, tu reviendrais chez toi plus jeune, ta montre et tes fonctions biologiques tourneraient au ralenti. Mais pour percevoir ces phénomènes à plus grande échelle, il faudrait se trouver à 10% de la vitesse de la lumière, soit 30 000 fois plus vite que le plus moderne de nos vaisseaux spatiaux actuels. De plus, Einstein ne s'est pas arrêté là. Avec sa théorie de la relativité générale, il découvre que le temps est non seulement modifié par la vitesse, mais également par la gravité. En gros et en image, ça donne qu'assis au bord de la mer, le temps passe plus lentement que tout en haut d'une montagne. Question de gravité. Une grande vitesse ralentit le temps, tandis qu'une faible gravité l'accélère. Il était super en avance sur son temps, le Einstein. C'est tout de même grâce à sa théorie qu'on a pu régler nos montres sur un satellite qui, se trouvant à 20 000 km de la Terre, ne subit que le quart de l'attraction terrestre et donc son décalage de temps est de 38 microsecondes. Et sans les conseils d'Einstein, nos GPS auraient déjà une imprécision de quelques centaines de kilomètres. Alors, merci qui ? Merci Albert. Mais le temps s'écoule aussi ici, amis auditeurs, auditrices de RVM 93.7, où que vous soyez dans le temps. Avec moi, ici, quand j'écris, au moment où vous allumez votre poste de radio, ou dans 100 ans, en pleine rediffusion de nos programmes, le temps n'appartient pas plus à vos oreilles qu'à ma voix, et pourtant, de temps en temps, il s'accorde et résonne sur les ondes. Mais, amis auditrices, auditeurs du Valois-Mulcien, ce qui fait de ce moment une parcelle de temps présent, c'est qu'à travers ce pamphlet haoussien, septembre ressemblera aux vacances. Et à l'heure de votre écoute, mon cœur vieillira un peu moins vite. Je vous embrasse depuis un autre espace-temps.